Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne, Sophie Peters.
Bonsoir et bienvenue à cette heure tardive pour une libre antenne tout autant disponible à vos appels au 3921, une émission dans laquelle on a tendance à illustrer, vous savez, la fameuse formule de Nietzsche qu'on connaît évidemment tous par cœur, hein, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Mais qu'il faut savoir aussi ne pas prendre au pied de la lettre, comme toutes les formules, j'ai envie de dire, au risque sinon de se sentir dans un cruel sentiment d'échec. Quand on croise sur son chemin un événement qui nous blesse autant physiquement que psychiquement, ça laisse toujours des cicatrices. Un rat soumis à des stress continus, choc électrique, agression, devient craintif, stressé et développe des signes de dépression. Sa santé flanche, il n'est pas mort mais est devenu plus faible et fragile. Les humains sont aussi des primates et leur réaction est identique. Les épreuves dont on ne sort pas victorieux laissent évidemment des traces. À savoir quelles traces? Alors le psychologue Marc Siri de l'université de Buffalo aux États-Unis a réalisé une enquête nationale auprès de 2400 personnes qui ont été interrogées régulièrement entre 2001 et 2004 et Marc Siri et son équipe ont découvert que le lien entre adversité et bien-être est plus complexe qu'il n'y paraît. Les chercheurs ont mesuré les liens entre les épreuves de vie et plusieurs mesures de santé mentale telles que le taux de dépression, les symptômes post-traumatiques ou simplement le sentiment de bien-être. Et comme on peut s'y attendre, eh bien les personnes qui ont connu de graves épreuves sont plus souvent atteintes de troubles dépressifs ou se déclarent moins satisfaites de leur vie. Cependant, note Marc Siri, nos courbes ont une forme en U. C'est-à-dire qu'on observe en effet que les personnes qui au cours de leur vie ont connu des problèmes mineurs ou passagers sont moins affectées que celles qui ont subi une loi des séries. Alors selon le psychologue, ce constat est cohérent avec l'idée qu'en proportion modérée, prendre des coups, comme on dit, contribue à développer une certaine résilience. Donc oui, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort lorsque l'on peut se relever, mais il arrive aussi que ce qui ne nous tue pas nous laisse dans une immense fragilité. Sans doute faut-il laisser le temps faire son œuvre et se permettre de recréer les conditions les plus favorables possibles pour que l'environnement deviennent porteurs. Et ça, c'est, je pense que c'est un point absolument essentiel. On reste donc très attentif dans cette émission à ce qui vous environne. Florian et Thomas attendent vos appels au 3921 et c'est Philippe Chartier qui très fidèlement réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 739-21 en commençant votre texto par le mot nuit écrit en majuscule. Et puis également partager avec nous en envoyant un mail à libreantenne tout attaché en minuscule @europa.fr. On attend vos appels au 3921.
22h30, 1h, la libre antenne avec Sophie Peters sur Europe 1.
Bonsoir Elsa.
Allô, bonsoir Sophie.
Oui, bienvenue.
Eh bien, merci Sophie. Écoutez, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous ce soir. Hein. Je vous remercie beaucoup d'avoir sélectionné mon appel déjà. Voilà, et je voulais vraiment vous remercier sincèrement pour la qualité de vos émissions.
Ouais, c'est gentil, merci.
Que j'écoute tous les soirs. Votre écoute vraiment bienveillante et vos conseils éclairés. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier beaucoup. Merci. Et le préambule que vous venez de faire, enfin votre introduction, m'a vraiment beaucoup parlé. Parce que...
Dites-moi, oui.
Eh bien, là, je viens d'avoir 50 ans, donc je ne suis pas toute jeune, hein, quand même. Et malgré tout ça, je me rends compte que mon père, enfin, je viens de m'en rendre compte il n'y a pas très longtemps, en fait, que mon père est pervers narcissique. Pardon.
Oui. Avec vous, enfin, quand vous dites il est, c'est-à-dire dans la relation avec vous.
C'est ça.
Oui.
Et ce, en fait, il est depuis toujours, parce que déjà enfant, c'était très, très, très compliqué, avec ma mère aussi. Sauf que je pense que j'étais dans une forme de déni, et je me disais, ça va s'améliorer, il n'y a pas de raison, mais de clash en clash, de, comment vous dire, d'affront en affront, voilà. Et là, il y a eu un gros clash juste avant Noël, et je pense que là, ça, c'est vraiment le coup de massue qui m'est tombé dessus. Et... En mettant bout à bout tous les petits morceaux de vie comme ça, les uns à côté des autres, et en en parlant avec une psychologue aussi qui
oui, d'accord, ouais. Qui vous a orienté, oui.
Voilà, tout à fait. Et en fait, voilà, je voulais un petit peu vous parler de tout ça pour avoir un petit peu votre avis, peut-être celui des auditeurs aussi, parce que c'est vrai qu'on parle, bon, c'est un terme à la mode maintenant, les pervers narcissiques.
Oui, hein, mais oui.
Et on en parle souvent dans le couple, mais oui. Je pense que le côté enfant est quand même souvent oublié. Et bon, même si là maintenant j'ai 50 ans, j'ai quand même été enfant avant et j'ai vécu ça au long cours. Et je me rends compte des dégâts que ça peut faire sur le.
Mais vous voulez dire qu'il, oui, vous voulez dire qu'il sait où il se comporte aujourd'hui, de quelle manière avec vous, qui vous permet de voilà d'établir les choses de cette façon-là.
Bah de façon comme si j'étais un objet, mm-hmm. Un objet très très comment vous dire très précieux à ses yeux.
Oui, oui.
Par exemple, le smartphone de dernier cri, si vraiment, alors que je ne suis pas du tout smartphone, mais enfin, pour vous donner un exemple, donc un objet auquel il attacherait énormément d'importance et qu'il utiliserait uniquement quand il aurait besoin.
Mais ce qui. Oui, pardon. Et il cherche à le détruire, cet objet, justement, et il y a une jouissance de la destruction
parce oui, que parce que parfois il est très, très, comment vous dire, désagréable en parole. Il peut avoir des paroles très très dures, des mots très durs,
oui.
Où il est cassant.
Oui.
Et étant enfant, j'avais déjà ce où il me rabaissait tout le temps dans la critique. C'était un piétinement moral en gros quoi.
Oui, d'accord.
Je suis dure en disant ça, mais c'est la réalité.
Non, c'est comme ça. Et aujourd'hui, comment? Enfin, vous le voyez toujours? Parce que vous dites qu'il y a eu un gros clash à Noël.
J'ai coupé les ponts, là, on va dire, depuis 2 mois, et ça me coûte énormément. Parce que, voilà, la veille de Noël, en fait, je l'avais invité, et puis il est arrivé vers 15h, et à 18h, il est reparti.
Pourquoi?
Me laissant avec leur pas, les cadeaux, enfin bref.
Ouais, et pourquoi qu'est-ce qu'il a...
C'était une chose, un pic, et puis une autre pic, et puis encore une autre pic, et puis de là, après il avait décidé de prendre la voiture et de partir, comme ça, sans un mot.
Donc il se met en colère un peu tout seul, quoi.
Il voit rouge. De façon très brusque.
D'accord.
Donc c'est enfant, c'était comme ça aussi. Hein.
D'accord, donc c'est lui qui a beaucoup de mal à gérer ses émotions, ses accès de colère.
Oui. Pour vous donner un exemple, il y a une fois où j'étais en panne de chauffage. Donc j'avais quoi, 13-14 degrés dans la maison. Tous les dimanches, c'était le rituel où j'allais lui dire bonjour, je mangeais avec lui, etc. Je passais l'après-midi. Et ce jour-là, je lui ai dit, écoute, je suis en panne de chauffage, je prends mes animaux, est-ce que ça t'embête pas que je passe le dimanche soir chez toi? J'avais une formation plus loin, après sur une autre ville, bref. Et est-ce que ça ne te dérange pas? Il m'a répondu comme ça. De toute façon, j'ai pas tellement le choix. Je peux pas faire autrement.
Mais... Bah,
tu me dis sincèrement les choses. À ce moment-là, je fais demi-tour. Mm-hmm. Oui, ben t'as qu'à faire demi-tour. Alors que j'avais chargé toute la voiture. Enfin, vous voyez, c'est ce style-là, quoi.
Oui, c'est que là, vous lui avez tendu le truc alors qu'il n'était déjà pas... vous lui avez tendu un peu la situation et il accepte d'être odieux avec vous, en fait. Il a un côté odieux.
Ah oui, oui, oui. Mmh. Mais même sur parfois le physique, sur plein de choses.
Il était comme ça avec votre mère aussi, vous dites.
Aussi.
Et vous êtes enfant unique, je crois.
Oui, malheureusement.
Ouais. Par moment, il prend conscience qu'il est odieux ou jamais?
Je me pose toujours la question.
Il s'excuse parfois d'être allé, par exemple, cet exemple où vous faites demi-tour. Mais bon, vous lui avez dit, bon, tu me dis si vraiment ça te dérange. Donc, du coup, il s'est permis de vous dire, bah oui, ça me dérange. Bon, mais je comprends que vous ayez du mal à vous imposer par rapport à lui. Mais par exemple, à la suite de cet épisode-là, est-ce que vous lui avez dit, ben, je n'ai pas vraiment apprécié, je me suis retrouvée dans le froid, j'ai dû faire demi-tour. Vous l'avez parlé de vous? Ou pas du
oui,
tout.
J'ai essayé d'aborder les choses.
Oui.
Ce à quoi elle m'a répondu, mais de toute façon, j'étais en colère, et quand c'est comme ça, quand je suis en colère...
C'est ça, hein. Voilà, ouais, c'est un homme en colère, c'est ce qu'on comprend. J'ai du mal à voir le profil de Père Vernacik dans ce que vous décrivez. Je vois un homme très en colère, qui ne supporte aucune contrariété, frustration, qui tout d'un coup prend la mouche pour un oui ou pour un non, qui est très emmuré en lui-même, on dirait, votre père, plutôt. Parce que Père Vernacik, bon, c'est quand même très particulier. Alors, bon, on pourrait analyser, mais il y a une forme de séduction, il y a après une emprise, il y a après une manipulation, avec une jouissance de voir la personne détruite. Bon, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs plus dans les cours, vous dites, avec les enfants, mais parce que c'est une relation d'emprise, hein, c'est du vampirisme. Là, il ne cherche pas à vous vampiriser, vous dites, c'est ça.
Tous les jours, à telle heure, il m'appelait tous les jours à telle heure, pile poil.
D'accord.
Et si j'étais pas là, enfin, où étais-tu, enfin, bref.
Mais parce qu'il veut savoir où vous êtes, ou parce qu'il s'ennuie, parce qu'il est tout seul, parce qu'il est anxieux?
Bah, je pense qu'il voudrait peut-être que je sois avec lui, ou enfin, je sais pas, mais...
Quel type de dialogue vous arrivez à avoir avec lui, en dehors de ces heures? Est-ce qu'il y a des moments où vous arrivez à vous parler
c'est
de certaines
compliqué.
Choses?
C'est compliqué.
D'accord, donc il s'emporte très facilement, voire tout le temps pour vous?
Oui. Ou alors il se mure dans le silence.
Oui, il est très mal dans sa peau.
Ouais.
Et est-ce que ce serait... Bon, Jean, vous dites que vous êtes accompagnée par une psychologue, et ça c'est bien Elsa, parce que quand je vous entends dire, bon, j'ai coupé les ponts, mais en fait je le vis mal, parce que c'est votre seule famille, en fait, ce
ben,
père.
C'est ça, et oui.
Vous avez des amis, vous êtes soutenue, vous avez un compagnon, vous avez une vie, par ailleurs?
Non, malheureusement, j'avais un compagnon, et ça n'a pas été non plus, donc là, je me retrouve toute seule, quoi.
Et vous avez des amis? Vous avez eu des enfants?
Plus ou moins. J'ai des collègues de travail, mais...
Et des enfants, non? Vous n'avez pas eu d'enfants?
Non. Maintenant, toute ma vie, plus ou moins, était... C'est compliqué.
Autour de vos parents, j'ai l'impression.
Ouais.
Donc, c'est d'autant plus important, cette relation avec ce père.
Mais c'est ça.
Ouais.
C'est ça. Je suis désolée, si vous entendez un petit miaulement, j'ai mon chat qui est
à
côté,
mais
donc
c'est parfait.
Pas d'inquiétude.
On va l'inviter dans le studio.
Donc c'est vrai que c'est un petit peu... Là où je suis en souffrance, c'est que c'est vrai, je voudrais décrocher le téléphone pour lui parler. Mais déjà, je ne vais pas savoir quoi lui dire, d'une. Et de deux... J'ai peur après de repartir dans l'engrenage de nouveau où je vais être sous emprise, où il va falloir que j'aille tel jour, où il va me manipuler encore, enfin, vous voyez.
Et lui, il a essayé de vous joindre là parce que vous dites que vous avez coupé les ponts. Oui, il a essayé.
Alors, moi, je lui avais envoyé une carte de vœux parce que c'était impossible que je puisse lui parler. Je peux pas lui parler. Donc, je lui ai envoyé une carte de vœux. Il m'a répondu 15 jours après par téléphone en message. Et il m'a renvoyé un autre message un petit peu quelques temps après, mais de façon comme ça, pour parler du quotidien, quoi.
Donc c'était relativement, on va dire, relativement apaisé. Enfin, moi...
Oui. Mais ce qui m'a quand même, et je sais que ça, c'est ça, ce qui, si vous voulez, ce qui m'a vraiment ennuyée, on va dire, c'est que en parlant là, notamment avec ma psychologue, de ce type de personnalité-là, elle me dit, vous savez, il ne changera pas. C'est-à-dire que là, il va peut-être essayer de nouveau de vous amadouer en étant gentil, en étant serviable et tout. Et puis, un jour ou l'autre, quand vous n'allez pas vous y attendre, paf, ça va de nouveau, le coup va arriver.
Mais le souci, c'est pas tellement ça. Elsa, oui, bien sûr qu'il ne changera pas. Et rarement, c'est l'autre qui change. Mais si vous changez, c'est-à-dire si vous menez un travail qui vous permet de prendre de la distance, et surtout si vous nourrissez votre vie d'autres relations que celle-ci. Parce que ce qui est terrible, dans ce que je comprends dans votre témoignage, c'est que c'est une relation qui prenait beaucoup de place dans votre vie, et que tout d'un coup, ça crée un grand vide. Et comme il n'y a pas autre chose, vous dites bon qu'il y a quelques rares collègues de travail, mais que vous n'avez pas de liens amicaux ou affectifs forts ou sentimentaux, vous n'avez pas une vie à vous, Ben, votre père, c'est quand même un gros lien affectif. C'était comme une forme de couple que vous aviez avec lui. Et là, vous vivez non seulement un grand vide, et en plus, ce n'était pas une relation très saine pour vous, pour une femme qui a 50 ans, de s'occuper de son papa. Oui, mais c'est important d'avoir
après, je
des liens
je
ailleurs.
Après, je ne vivais pas avec lui. Hein,
non, j'entends bien, mais on n'a pas besoin de vivre avec les gens. Oui, mais on n'a pas besoin de vivre avec les gens pour les placer à l'intérieur de soi. C'est qu'il était très, très présent. Psychiquement à l'intérieur de vous, occupant vos pensées ou appelant les jours. Donc, ça crée forcément un vide dans les préoccupations, dans les pensées, dans le fait de sentir qu'on est en lien. Donc, vous devez vous sentir encore plus seul et vous devez être en train de vous dire bon, à tout prendre, est-ce que je préfère quand même pas avoir un lien avec lui, même si ce lien me fait mal, que de ne pas en avoir du tout ? Et je peux comprendre ça. On comprend facilement cette question qui se pose à vous. Maintenant, ce qui serait le plus équilibrant pour vous, c'est de développer d'autres relations qui permettraient du coup d'en garder une avec votre père. Parce que du coup, votre père, n'occupant plus un territoire trop important à l'intérieur de vous, enfin, psychiquement, effectivement, et que vous ayez d'autres attaches, bah, il vous reprendrait une place au bon endroit à l'âge qu'il a pour une femme qui a 50 ans et dont c'est le père. C'est-à-dire que ça se mettrait plus en place. Donc, ce n'est pas le changer, c'est vous modifier votre environnement, justement. C'est intéressant, avoir un environnement solide pour que, justement, ça ne vous fragilise pas.
Oui, puis là, j'avais fait connaissance de quelqu'un il y a quelque temps, mais ça n'a pas duré très longtemps. Il y avait un gros problème, peut-être psychologique aussi, avec un traitement, etc. Et bon, ce n'était pas du tout... Donc voilà, je vais d'épreuve en épreuve, on va dire. C'est un peu comme,
Et ça, vous avez
comme votre introduction tout à l'heure. Bon.
Oui, vous avez l'impression qu'il y a comme ça une loi des séries. On fait une toute petite pause, Elsa, et on en parle juste après.
Pour joindre Sophie Peters, appelez le 3921.
50 centimes la minute.
Elsa, vous nous parliez justement d'une relation sentimentale que vous aviez nouée avec un homme et qui s'est révélé, vous dites, très fragile psychologiquement et sous traitement.
Oui.
Et qu'est-ce que vous comprenez de ce qui vous a attiré et que peut-être, il y a peut-être une candeur, moi j'entends une candeur dans votre voix, très jeune.
Oui, on me dit souvent que j'ai une voix très très jeune, c'est vrai.
Oui, c'est ça, il y a beaucoup de candeur et peut-être une certaine forme, alors je dis une forme de naïveté dans le sens où peut-être vous ne repérez pas les bons environnements, je parlais d'environnement dans mon intro, d'environnement, de relations qui seraient bonnes pour vous, comme s'il n'y avait pas de... comme un signal d'alarme qui s'allume. C'est ça qui s'est passé dans cette relation sentimentale pour vous ?
Bah, c'était plutôt, comment vous dire, je pense qu'on était au même niveau de la sensibilité, je pense.
Oui.
Être une personne hypersensible et je pense que c'était la sensibilité de cet homme-là qui m'avait attirée en premier lieu.
Mmh. Ouais. Et après ? Il se s'est révélé,
Et après, après, ce qui s'est révélé, c'est que, je vous dis, au niveau de sa santé, enfin, il avait un traitement lourd. Après, je l'ai découvert après. Et au long terme, j'aurais pas pu tenir, quoi.
Oui, il y avait aussi des accès d'humeur, un peu comme votre papa.
Oui, oui.
Vous retrouviez quelque chose de votre père.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Il y a sans doute eu de votre part une grande attirance aussi pour cette fragilité que vous avez dû sentir, parce que je suis persuadée que chez votre père aussi, il y a quelque chose qui doit émouvoir la petite fille que vous avez été. Vous sentez bien que ce père, il est sans doute emmuré, malheureux, agressif, caractériel, et peut-être que la toute petite Elsa, elle a essayé de réparer ou de faire quelque chose pour ce papa. Peut-être que vous arrivez à un âge ou un stade de votre vie où vous êtes très découragé en vous disant « j'ai l'impression que je ne sers à rien, que je ne peux rien faire ».
Ah ben, mon papa, je l'ai toujours connu de toute façon, plus ou moins dépressif, avec des traitements aussi, où
avec
j'étais là plus ou moins tout le temps à jouer les petites infirmières. Enfin,
je comprends.
C'est tout à fait ça.
Oui, donc avec cet homme-là que vous aviez rencontré, c'est un univers que vous connaissiez bien. Ce serait important, Elsa, de vous lancer un peu dans l'inconnu. Quand je dis dans l'inconnu, c'est-à-dire des relations très différentes de celles que vous connaissez habituellement, pour vous rendre compte qu'il peut y avoir des relations plus constructives pour vous, plus fortes.
D'accord.
De vous autoriser à aller vers des personnes, de, je sais pas, de proposer, mais ça peut être des amis aussi, femmes, enfin de nouer, de créer des relations un peu nouvelles, de vous autoriser à vous créer un réseau un peu fort, un peu solide, qui soit pas fait que de toute la fragilité que vous avez connue dans votre enfance et votre jeunesse. C'est ça qui va être vraiment le plus aidant pour vous et le plus structurant. Et qui vous permettra après de mettre votre papa à la bonne place et éventuellement de le voir ou d'être un peu là pour lui, mais un peu, voilà, pas trop, un peu.
Oui, d'accord. Bon, bah écoutez, je vais essayer de suivre tous vos conseils, Sophie.
Oui, parlez-en, oui, avec votre psy, mais vraiment développer des relations plus solides et bonnes pour vous, vraiment, des relations sur lesquelles vous pourrez compter. Vous avez besoin de pouvoir compter sur des êtres qui sont là pour vous. Et pas de compter que sur vous.
Et là, je suis tombée de haut. C'est vrai que parce que j'avais mis quand même beaucoup d'espoir dans cette relation en me disant, mais puis bon, patatras quoi.
Mais bon. Mais sans doute qu'elle ressemblait un peu trop à ce que vous connaissiez bien. Et à vouloir encore jouer la soigneuse, le grand cœur et être là pour l'autre. Mais vous avez besoin de personnes qui soient là pour vous, Elsa.
Oui, c'est ça.
Et pas être là pour les autres. Parce que ça, c'est l'enfance que vous avez connue, d'être toujours là pour les autres. Et donc, pour vous, c'est ça, c'est votre place dans la vie. Je suis là pour quelqu'un qui va plus mal que moi. Mais déjà, c'est merveilleux que vous en soyez sortie avec cette enfance-là.
Oui, tout à fait.
Ces parents-là. Donc, vous êtes suffisamment solide aujourd'hui pour rencontrer des personnes solides pour vous.
D'accord.
Et qui puissent se manifester pour vous. Oui, il y a Louisa qui envoie un message pour vous en disant vous avez la voix d'une petite fille, elle semble encore très intimidée. Quand je l'ai là, cet enfant, elle pourra rejoindre une voix plus adulte pour aborder ce père revêche.
Ah bah c'est très gentil.
Oui, c'est joli comme
c'est tout. C'est très gentil, mais on me l'a souvent dit que la voix pouvait justement aussi être... que c'était encore la voix d'une petite fille, mais oui, mais bon.
Et pourquoi pas ? Non, mais vous rentrez pas dans le papier, c'est juste une indication de dire que maintenant vous avez le droit à une vie de femme et d'adulte. Quand je dis le droit, c'est-à-dire l'autorisation à vous la créer, que c'est possible pour vous, que vous n'êtes pas destinée toute votre vie à être cette petite fille pour ce père, comme vous dites, qui vous met sous emprise ou qui vous manipule ou qui vous bouffe, quoi. Voilà,
oui,
qui vous dévore.
C'est ça. Hein. Un petit peu, bien sûr.
Oui, ça fait penser, vous savez, un peu à ces histoires de Barbe Bleue ou à ces dévorations. Voilà, vous étiez dévorée.
Oui.
Et que vous risquez d'aller vers des amis ou des gens qui vont vous dévorer, vous, parce que ça, pour vous, c'est un gage d'amour, c'est ce que vous connaissez de l'amour, c'est d'être dévoré. Être dévoré, c'est je suis aimée, c'est ce que vous avez compris enfant. Or non, c'est pas ça pour vous l'amour, et vous avez surtout besoin de ne pas être dévoré. Mais qu'on soit là, voilà, pour vous protéger, d'avoir des bons amis, des gens que vous pouvez appeler quand vous êtes dans la peine. Ça, c'est tellement important pour devenir justement, hein, quand je reprends la phrase, qui nous tue pas nous rend plus fort. Oui, ça nous rend plus fort pour autant qu'on soit pas dans l'abandon de soi-même, hein, qu'on puisse avoir un environnement solide, avoir quelque chose de possible sur lequel s'appuyer.
Mmh.
Oui.
D'accord.
Il y a Mimi le boulanger, vous savez, qui fait son pain en vous écoutant et qui
dit,
il faut penser à vous maintenant. Vous avez une très belle voix, Elsa.
C'est
il y a beaucoup
gentil.
De candeur. Oui, il y a beaucoup de lumière dans votre voix, Elsa. Plus, et c'est la candeur de l'enfance. Donc, c'est des possibles.
J'ai distribué à beaucoup de monde.
Ça s'entend.
Dans le milieu professionnel, à mes amis, mes voisins, j'ai fait. Mais parfois, c'est vrai, je me dis, bon, c'est pas grave, c'est pas... Donc, voilà.
Mais c'est bien de distribuer, mais c'est un échange, un aller-retour. C'est que vous aussi, vous avez besoin d'être nourri, d'avoir de la ressource. Si tout le temps, c'est vous qui donnez à tout le monde, après, vous vous retrouvez seul. C'est épuisant. Et puis surtout, ça peut vous rendre triste, quoi. Ça peut vous rendre malheureuse dans la vie.
Oui.
Il n'y a pas de raison. Donc, c'est un échange.
D'accord.
C'est pas un sens unique où vous devriez tout donner. Donc le temps de vous, de reprendre des forces. Et puis ce papa du coup sera au bon endroit à ce moment-là. Il prendra sa bonne place.
Sa juste place.
Ouais, la place qu'il devrait garder. Donc pas trop proche quand même.
Très bien, Sophie. Parce que du coup là, je culpabilisais aussi en me disant je peux pas aller le voir, c'est impossible pour moi. Mais du coup. Je culpabilisais un petit peu, vous voyez, de le laisser un peu
Oui, je comprends, mais à ce moment-là, oui, vous culpabilisez, mais c'est rejouer toujours la même scène. Donc le temps que, où vous n'allez, pour l'instant, en ce moment, s'il n'est pas en danger, ou vous n'allez pas le voir, vous occuper de lui, ben vous allez mettre à profit ce temps pour une nouvelle relation qui vous permettra après de prendre de ses nouvelles.
Mieux et de, ouais,
absolument. Ça ne veut pas dire vous couper. Vous savez, c'est difficile, et vous en faites l'expérience, Elsa, quelquefois on coupe les ponts avec un membre de notre famille. En fait, on est très malheureux parce qu'on reste en fait très attaché. Couper les ponts ou claquer la porte en pensant qu'on va laisser derrière soi quelque chose, ça ne marche pas comme ça psychiquement. Vous avez beau couper la relation reste là. Elle est là d'ailleurs. Du coup, vous appelez ce soir, elle est très vivace, bien que vous ayez le sentiment de ne plus le voir. Donc, c'est plutôt en étant dans votre vie, en nourrissant votre vie le plus possible, que la part que prend cette relation à l'intérieur de vous va diminuer petit à petit. Et ça vous coûtera moins, vous. Peut-être un jour, et je l'espère, ça vous fera sourire. C'est-à-dire que vous direz, bon bah oui, c'est papa, et je le connais, il est revêche, il est comme ça, il est insupportable, il va encore crier, il va encore être mécontent, mais ça ne m'atteint plus pareil. Ça ne m'atteint plus pareil. C'est vers ça que vous devez tendre, Elsa. La situation ne change pas, mais vous ne la vivez plus pareil.
D'accord.
Et pour la vivre différemment, bah, c'est que vous avez d'autres relations ou d'autres événements dans la vie que vous vivez qui vous nourrissent justement d'émotions positives. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà, de jolies choses qui viennent en fait vous nourrir et donc qui font poids, qui créent un équilibre. Et c'est des équilibres de force en fait.
Oui, que là, c'est complètement, en effet, déséquilibre. Et là, du coup, pour le coup, c'est... D'accord.
Ouais. Et la culpabilité ne va pas vous aider à résoudre ça. Vous allez vous dire, ah oui, quand même, ce n'est pas bien, je devrais. Et
non,
quand
parce
vous
que ça crée de l'angoisse.
Ouais, oui, ça crée de l'angoisse, oui. De quoi de ne pas être la bonne fille, c'est ça?
Ben voilà, exactement.
Mais celle que vous avez été, pas tentée d'être, que vous avez été toute votre vie, et dont vous voyez que les résultats n'ont pas pu porter les fruits, non pas que ce soit vous qui en soyez coupable, mais c'est que votre père ne vous a pas accueilli dans cette fille douce, là, pour lui, attentive, qui a envie d'une bonne relation. Il faut être deux, Elsa, pour avoir une jolie relation.
Oui, c'est ça. Ou alors toujours plus, toujours plus, toujours plus, et non, il y a un moment, c'est pas possible, quoi, vous voyez.
Oui. Puis j'ai cru comprendre que vous me dites que votre papa, voilà, a toujours été un grand dépressif, que donc la vie lui est douloureuse, difficile.
Oui.
C'est adorable évidemment en tant que petite fille d'avoir voulu lui rendre une jolie vie à votre papa. Mais je crois que vous avez tout fait, tout bien fait, et vous pouvez pas le rendre heureux comme. Bah oui, je comprends, c'est un joli vœu, mais ça marche pas comme ça.
Ça marche pas comme ça.
Non, non. Donc occupez-vous de vous, Elsa. Là, c'est important de remplir votre vie.
D'accord,
de jolies
Sophie.
Choses et de jolies rencontres. Bonne pour vous, d'accord?
Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment, Sophie.
Belle nuit à vous.
Et puis, bonne nuit à vous et puis longue vie à votre émission.
C'est gentil. Merci, Elsa. Merci, je vous embrasse.
Merci, au revoir, Sophie.
Au revoir.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sophie Peters.
Et le 39-21, si vous souhaitez nous rejoindre dans cette libre antenne qui est à vous, pour prendre la parole, pour vous raconter, pour poser les questions sur lesquelles vous avez besoin d'obtenir quelques éclairages et peut-être même des réponses. Florian et Thomas sont à votre écoute au 39-21. Vous pouvez également réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS 739-21 précédé du mot nuit, écrit en majuscule, ou par mail libreantenne tout attaché en minuscule @europe1.fr et la page Facebook Sophie Peters. 39-21, la nuit est à vous.
22h30, 1h, la libre antenne avec Sophie Peters sur Europe 1.
Bonsoir Natacha.
Bonsoir Sophie.
Bienvenue.
Merci de m'accueillir dans votre émission que j'écoute depuis très longtemps. Et justement, vous parliez d'éclairage et j'ai besoin de votre éclairage.
D'accord.
Comme je vous l'ai dit, j'écoute très souvent votre émission et vous parlez de nombreuses techniques. Mm-hmm. comme l'hypnose, comme le MDR, comme les constellations familiales, etc., etc. Et en fait, là, j'étais un petit peu désarçonnée par la psychologue que je vois depuis le mois d'octobre. Mm-hmm. Alors, moi, j'ai déjà fait une psychanalyse, une psychothérapie. Enfin bon, j'ai fait de l'hypnose traditionnelle. Et donc là, cette psychologue que je vois depuis quelques mois, donc m'a proposé de faire de l'hypnose spirituelle.
D'accord.
Et donc, j'ai dit oui.
Mais est-ce qu'elle pratique, elle le pratique, j'imagine.
Voilà, donc elle le pratique. Donc en fait, elle pratique, elle est psychologue clinicienne. D'accord. Donc elle a des, enfin voilà, et elle fait tout ce qui est TCC, de l'hypnose, donc de l'hypnose traditionnelle, enfin tout ce qui est, je sais plus, analyse systémique, je me rappelle
d'accord,
plus. Enfin,
d'accord.
Disons qu'elle a une boîte à outils. Ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit chaque séance n'est jamais la même, et elle a une boîte à outils avec différents outils en fonction de la problématique.
D'accord.
Et là, donc, il s'est avéré qu'en discutant, donc, elle voyait qu'il y avait un problème dans ma vie sentimentale qui était probablement lié à un homme que j'ai connu, qui a été mon premier amour, et qui s'est suicidé. Et elle me disait, il y a probablement donc un lien karmique avec cet homme. Alors, ce que je veux bien croire, il n'y a pas de souci, mais en fait, ma question, c'était déjà, est-ce que le fait de faire de l'hypnose spirituelle, est-ce que ça libère quelque chose, ou si c'est simplement pour savoir que j'ai un lien karmique, j'allais dire, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire?
D'accord. C'est parce que l'hypnose spirituelle, ce qu'elle propose ou défend, c'est en fait ce qu'ils appellent des régressions dans une vie antérieure. Et donc, en fait, ce serait vous donner accès à une vie. Alors, je connais pas, si vous voulez, cette pratique. Donc, je sais ce que ça recoupe, mais je la connais pas parce que dans le sens où je ne l'ai pas pratiquée moi-même. Donc, ça m'est difficile de vous donner un avis éclairé et sûr. Je sais qu'elle existe. Je sais qu'elle est très développée dans certains pays anglo-saxons, que ça se développe. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'individus sont dans cette quête spirituelle, et que toutes les thérapies visées spirituelles prennent de l'ampleur. Mais on pourrait dire que la psychanalyse jungienne l'était déjà, mais elle ne disait pas son nom. Jung était effectivement d'un grand éveil spirituel. Et donc, il n'y a pas forcément besoin, enfin, on peut être sur ce chemin-là sans pour autant en faire état sur un plan très pratique. Vous voyez, vous pouvez être psychanalyste et emmener votre patient vers cet éveil-là, ou en tout cas le connecter à cette dimension-là, puisqu'on a toute cette dimension. Maintenant, là, dans ce dont vous parlez, c'est que là, il y a comme un protocole. Pour permettre une régression via l'hypnose. Alors,
et
vous,
justement, en fait, ça me fait peur.
Bah oui, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, c'est exactement ce que j'entends. J'entends bien que c'est ça. Donc, parce que j'imagine que vous êtes un peu renseignée aussi, vous. Oui.
Oui. Je me suis renseignée. J'ai même. Je me suis renseignée, j'ai même acheté un livre que j'ai commencé à lire, hein, qui est « Se souvenir de l'au-delà » du docteur Michael Newton.
Oui, qui est, je crois, qu'un des...
Un psychiatre.
Oui, d'accord.
Américain, et qui a... Et c'est vrai que, bon, c'est assez saisissant, en fait. Et il y a de quoi, alors si c'est pour me terrifier, c'est pas la peine,
non,
de dire.
Non, je suis d'accord avec vous. Si vous voulez, il y a aujourd'hui Bon, l'être humain est complexe. On sait aujourd'hui qu'on... On sait, alors même depuis très très longtemps, vous êtes des traditions très très anciennes, on a notre corps psychique, on a notre corps physique et puis on a un corps cellulaire. Et sur cette mémoire cellulaire, on avance là. Beaucoup avec l'épigénétique, avec les neurosciences, ça passionne tout le monde en ce moment. Et ce corps cellulaire, c'est celui que la médecine chinoise connaît très très bien, puisque elle traite beaucoup plus le corps cellulaire que le corps physique, hein, bien que ces trois corps marchent ensemble. Bon, et c'est cette mémoire cellulaire, c'est elle qui ouvre vers le transgénérationnel, vers, si on veut l'appeler comme ça, hein, voilà, des vies antérieures ou des connexions. Donc oui, il y a des accès, mais on pourrait parler aussi des traditions chamaniques au Pérou ou en Mongolie, où voilà, on peut, par ces traditions très très anciennes, avoir accès à certains niveaux de conscience. Tout ça, c'est niveau de conscience. Mais l'ouverture à la spiritualité, vous l'avez chez des grands maîtres d'une grande sagesse par la méditation, et qui n'ont pas fait de techniques précises, mais en entrant en eux-mêmes et en se connectant. Vous avez ça chez les yogis, hein, avec voilà, une pratique assez intensive et disciplinée du yoga. Voilà, y a plein de chemins possibles. Voilà. Pour l'éveil spirituel, moi je vous dirais qu'il y a énormément de chemins possibles. Maintenant, c'est à vous de sentir ce vers quoi et dans quoi vous vous sentez le mieux. Ça me semble essentiel, en fait.
En fait, ce qu'il y a, c'est que ma question, c'était, je sais que j'ai un lien karmique avec cet homme.
D'accord.
Et que ça a conditionné toute ma vie sentimentale, qui a été chaotique par la suite. Donc, ça, je le sais. Alors je crois aux vies antérieures. Bon, donc du coup, effectivement, ça accroît peut-être la peur, parce que comme j'y crois à ça, je me dis que oui, je l'ai. Enfin, même on s'est reconnus quoi tous les deux. Donc je suis certaine que effectivement. Peut-être d'avoir vécu quelque chose avec lui avant, et puis on se retrouvera peut-être dans une vie par la suite. Mais en fait, c'est pas ça le problème, c'était de savoir ce qu'elle me proposait comme technique, donc spirituelle.
D'accord.
C'est est-ce que ça va libérer quelque chose en moi, dans ma vie là d'aujourd'hui, du fait de rentrer en hypnose spirituelle. Déjà, je ne connais pas cette méthodologie, je ne sais pas comment je vais me retrouver, donc ça me fait un peu peur.
Et quel est le risque d'ailleurs? Vous lui avez demandé quel est le risque?
Mais non, je suis restée un peu pétrifiée, je n'ai rien dit. Et du coup, là, la date de la séance avance et
je suis complètement... Mais alors, à ce moment-là, pourquoi, Natcha, vous n'iriez pas donc, au rendez-vous, à la séance, en disant qu'avant de vous lancer, il y a des personnes aussi qui sont comme ça en EMDR, et ça se comprend tout à fait, de dire, écoutez, moi j'ai besoin de plus de renseignements, dites que vous n'êtes pas rassurée, dites que vous voulez savoir quels sont d'éventuels risques, comment ça se passe, que vous avez besoin d'en savoir plus, que vous avez besoin d'être accompagnée, que ce soit plus expliqué pour vous. Ça vous êtes en droit, Natacha, c'est vous qui consultez, hein, un professionnel qui doit pouvoir vous répondre avec des réponses très précises sur sa preuve, sur où elle vous emmène et comment elle vous y emmène. Dire, voilà, ce que vous me dites là, moi je suis ouverte, voilà, moi j'entends que vous êtes ouverte à cette démarche. Maintenant, vous avez besoin d'être rassurée, quoi de plus normal et légitime? Et d'avoir besoin de savoir comment se passe une séance, décrivez-moi une séance, est-ce qu'il y a des risques, comment ça se passe? Parce que là, j'ai l'impression que vous manquez beaucoup d'informations de sa part à elle. Donc, du lien que vous entretenez avec elle n'est peut-être pas encore assez solide ou assez confiant pour que vous puissiez la suivre.
Oui et non, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait de l'hypnose traditionnelle.
D'accord.
Alors bon, ça marche pas sur moi.
C'est-à-dire vous connectez pas.
C'est-à-dire que en fait, j'ai compris les mécanismes très rapidement, donc ça a marché deux séances. Mais cette fois, c'est avec un autre hypnothérapeute, donc c'était de l'hypnose ericksonienne. Et au bout des deux séances, j'avais compris le truc, et du coup, ça. Voilà, ça fonctionnait pas. Mais après, bon, l'hypnose spirituelle, je connais pas, moi, je ne sais pas comment ça se passe, c'est peut-être autrement.
Mais c'est pour ça qu'il faut lui demander à quoi ressemble une séance et qu'est-ce que et lui dire ce que vous êtes en train de me dire là, que vous connaissez l'hypnose, que ça marche pas sur vous et que savoir comment elle pratique ça. Aujourd'hui, il y a effectivement plein de chemins. Vous avez aussi par la respiration. Hein, alors on parle de l'EFT, il y a aussi la respiration holotropique, hein, tout ce qui est le champ des thérapies transpersonnelles, où l'individu, par un système de respiration, qu'on va retrouver aussi, alors là, dans des pratiques orientales très très anciennes, va modifier son état de conscience, mais est accompagné là-dedans. Donc ce sont des accompagnements avec des chemins assez précis à emprunter. Donc elle en a sûrement un très précis, mais c'est important qu'elle vous en parle. Quand on fait une séance de MDR, on explique à son patient en quoi consiste le MDR, d'où ça vient, comment ça se pratique, quels sont les résultats, voilà, et comment se passe une séance. Voilà, et on fait en général une séance de préparation et d'explication avant de pratiquer un MDR. Donc là, c'est pareil, vous avez besoin d'avoir de l'information, c'est normal.
Ça me semble
important.
Bah oui, parce que donc elle m'a sorti ça la dernière fois, et donc je lui ai dit, bah oui, mais en fait, je m'aperçois que je ne sais pas à quoi je vais m'attendre. Et donc, bon, je m'informe, comme je vous dis, donc en ayant acheté ce livre-là.
Mais c'est elle qui doit vous informer parce que vous avez besoin, vous avez pratiqué avec avec une thérapeute et vous avez besoin de créer cette relation de confiance et de savoir un peu où vous allez. D'autant que c'est parce que vous serez confiante que ça pourra fonctionner et pas si vous y allez toute enfermée en vous-même avec la peur au ventre. Ça peut pas marcher. Au contraire, même le risque il est plus là si vous avez peur. Vous prenez plus de risques en ayant peur. Donc pour moi le risque majeur c'est celui-là, c'est votre peur. Et cette peur, écoutez-la parce que il faut que vous puissiez en parler. Dire voilà ce que je crains parce que j'imagine que avec cette peur, vous avez déjà des images ou des représentations qui vous viennent de ce qui peut vous arriver. Vous n'auriez pas peur comme ça. Est-ce que c'est quoi? C'est une perte de contrôle? Est-ce que c'est des voix?
Une peur. Alors parce que je ne sais pas comment ça se passe, donc je m'imagine en fait l'imaginaire. Après, il se met à
bien sûr à galoper.
Mais oui, à galoper.
Et ça
alors,
doit
on
pas
se
être.
Dit, est-ce qu'on va rester coincé dans une vie antérieure?
Oui, je comprends bien, Natacha. Mais tout ça ne doit pas être ésotérique. C'est important.
Oui,
c'est-à-dire
voilà,
que
c'est ça.
Tous ces mouvements de thérapie, certains sont plus solides que d'autres. Et certains sont solides, pourquoi? Parce qu'il y a eu des études cliniques, parce qu'il y a eu des chercheurs, parce que on s'appuie sur quelque chose d'ordre scientifique, on va dire. Hein. On le sait, par exemple, pour tous les travaux en transgénérationnel sur la mémoire cellulaire aujourd'hui. Hein, il y a énormément de choses sur le corps énergétique. Et on avance très, très, très vite là-dedans, hein, sur les chakras, les méridiens, par exemple. Ça, vous voyez, là, on sait de quoi on parle, on sait d'où on parle. Bon, ça, c'est important. Donc là, il faut la faire parler, il faut que vous ayez beaucoup plus d'éléments. Et pas que ça paraisse magique. Vous voyez, pas que ça paraisse magique. Ça peut pas être magique, il n'y a rien de magique.
Elle est psychologue clinicienne, quand même.
Sait sûrement ce qu'elle fait. Donc, elle doit pouvoir vous en parler. Peut-être que vous avez été un peu tétanisé, vous n'avez pas osé lui poser des questions. Donc, elle connaît très certainement bien sa pratique, si elle vous le propose.
Oui, d'accord.
Oui, c'est pour
Le fait que vous ne connaissiez pas.
Je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout, Natacha.
Vous avez l'air de connaître beaucoup.
Oui. Je connais de nom. Je ne peux pas vous décrire une séance, c'est ça. Je veux dire par là que je sais de quoi il en retourne, hein, sur des régressions. Voilà, c'est opérer une régression dans une vie antérieure. Voilà, maintenant, je ne peux pas vous dire comment se pratique une séance. Voilà, je ne connais pas assez.
Et surtout, vous ne savez pas si le fait de le faire, après, ça débloque quelque chose finalement dans la vie présente.
Non, mais par exemple, vous pouvez très bien prendre, Natacha, des gens qui font, alors là aussi, apprendre avec des pincettes, mais des stages ou des expériences de chamanisme avec certaines personnes, donc voilà, je pense à deux thérapeutes qui sont voilà, très, très chevronnés dans ce domaine et puis qui ont écrit et qui ont des études. Bon, là, oui, il y a des résultats. Bon, ce n'est pas pour tout le monde. Hein, et puis, il faut pouvoir se lancer dans cette aventure-là. Mais dans chacun des domaines, vous avez des gens sérieux comme vous avez des gens pas sérieux. Vous avez aussi des trucs de touristes qui vont au Pérou ou en Mongolie et où on leur fait boire une plante et là, c'est pas très heureux ce qui se passe. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on ouvre une porte dans cette domaine-là, vous avez des gens voilà, vraiment sérieux avec des techniques éprouvées et avec voilà, des années d'expérience. Puis vous avez ceux qui le sont moins. Moi, dans ce que vous me dites, bon, j'ai l'impression qu'elle a quand même une sacrée boîte à outils, votre psy. Donc, j'aurais plutôt d'avis de faire confiance, en tout cas, de faire confiance aussi à vous, en la faisant parler et en allant à la séance, pas pour démarrer d'emblée une séance comme ça, mais de dire, j'ai besoin qu'on fasse une séance entière où vous m'expliquiez de quoi il s'agit, comment ça se passe, j'ai besoin d'être assurée. Moi, je ne connais pas, j'ai lu un livre, je suis d'accord avec le principe, mais j'ai besoin de savoir ce que vous allez me faire vivre. Voilà, parce que pour moi, c'est important. Et ça, c'est juste. Et après, vous déciderez. Et après, vous êtes assez grande et vous voyez, vous êtes assez éveillée et ouverte pour vous dire, bon, ok, j'y vais ou j'y vais pas. Et vous allez décider. C'est pas moi, c'est pas ce que je vais vous dire. Voilà, je peux pas vous dire oui ou non. Moi, je fais confiance à ce que vous allez trouver et ou à vous dire bah oui, je suis cette voie-là parce que ça me paraît solide ou non, ça me paraît pas assez solide.
Cette histoire de
socle de solidité qui me paraît important et qu'on se lance pas dans ces domaines-là sans rien. On a assez d'informations aujourd'hui pour savoir ce qu'on fait et les choix qu'on décide.
Ouais, mais c'est vrai que comme c'est elle le médecin, j'allais dire, enfin elle est psy, donc c'est elle qui fait mieux que moi. Et donc c'est pour ça elle me l'a proposé, j'ai dit oui. Et en fait non, je crois que la prochaine fois je vais lui dire non, je suis pas prête, j'ai besoin d'informations complémentaires.
Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Attendez d'avoir toutes les informations. Là, vous avez souvent, c'est vrai, c'est difficile devant un professionnel, on a tendance quelquefois à obéir, hein, ça parle un peu de nous, il y a des gens méfiants, puis il y a des gens confiants. Bon, quand on dit oui sur le moment, puis après on dit, oh bah zut, j'ai dit oui, et voilà, ça peut arriver à n'importe qui, on a un peu peur.
Ouais.
Bon, bah, vous faites quelque chose de cette peur, et donc vous allez lui en parler. Et vous dites, bon, je ne suis pas contre, mais moi, pour l'instant, je ne suis pas rassurée, j'ai besoin de plus d'informations.
Oui, d'accord.
Mais sur le fond, je trouve la démarche est intéressante sur le fond. Maintenant, c'est ce que je vous disais, Jung était sur cette voie-là bien avant toutes ces thérapies. En Orient, en Asie, en Amérique du Sud, voilà, vous avez des traditions très 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 anciennes qui aussi en Inde également qui sont sur ces voies-là. Donc ça date évidemment pas d'aujourd'hui. Donc c'est pas si neuf que ça. Après, aujourd'hui, on développe certains de principes méthodologiques en mariant certaines approches thérapeutiques, par exemple notamment l'hypnose, l'hypnose au service de. Bon, maintenant, faut voir comment ça fonctionne tout ça.
Absolument. Ça, le problème, c'est que j'ai besoin de savoir comment ça marche et si effectivement après c'est efficace, si c'est simplement pour savoir que oui, il y a un lien, c'est pas la peine.
Vous avez envie d'aller plus loin, Alors, Natacha, du coup, j'en profite avant de vous quitter, mais ça va vous intéresser, vous, et puis sans doute beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, parce que vous la connaissez aussi bien. Il s'agit de Sabrina Philippe, qui remplace cette antenne, et qui vient de publier un roman qui s'appelle « Et que nos âmes reviennent ». Et qui est exactement sur le domaine dont vous parlez, que moi j'ai lu avec beaucoup de plaisir, et qui est sur, et si on avait plusieurs vies, et si nos rêves nous guidaient parfois sur les chemins de notre existence, et si la perte d'un être cher pouvait nous permettre de nous transformer, si toutes nos rencontres avaient un sens caché, Voilà, je n'en dis pas plus, mais je vous laisserai découvrir son ouvrage.
Ah, bah merci beaucoup.
Mais voilà, c'est tout à fait dans l'axe. Voilà, elle sera bientôt à l'antenne en mars et puis fin avril, début mai. Mais bien sûr, je vous redonnerai les dates. Et peut-être d'ailleurs que si vous faites une autre séance, vous pourrez l'appeler, en parler avec elle. Peut-être qu'elle connaît ou pas d'ailleurs cette démarche. Parce que, et c'est ce qu'on comprend aussi en lisant son ouvrage, c'est que ce que je vous disais, c'est qu'il y a plein de chemins qui mènent à cet endroit-là. Voilà. Et que chacun trouve le sien. C'est très, très intime et très personnel.
Oui. Hein? Oui.
Puisque oui. C'est sur une essence spirituelle de l'être. Donc, on va la développer et on peut la développer par soi-même en prenant certains chemins. C'est un accès.
Oui, ça, je...
Et j'entends que oui, que ça vous parle, ça. Ouais.
Oui, ça me parle. Mmh. Après, c'est simplement... si le fait de parce que voilà le fait d'en avoir conscience, donc on en a conscience, enfin c'est pas pour autant que ma vie a changé, enfin ma vie sentimentale a changé, quoi, qu'il y a eu des choses. Est-ce que justement il est nécessaire de faire de l'hypnose et de faire des régressions de vie antérieure pour que après dans ma vie je passe.
Alors, ouais, vous posez une très bonne question, Natacha, parce que en fait toutes ces démarches là n'ont pas pour objectif et pour enjeu de réussir quelque chose, et ça c'est essentiel. C'est à partir du moment où on prend la voie de l'âme, on n'est plus du tout dans celle de l'ego, voilà. Donc ça n'a juste plus rien à voir, c'est pas la même dimension. Donc y aller en disant qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, est-ce que je vais réussir à aller mieux, c'est comme de dire je sais pas, je vais faire un stage de chaman au Pérou pour me sentir mieux dans ma peau. Non, non. C'est un voyage, c'est une aventure, c'est une découverte. Hein. Donc c'est accéder à une essence de nous-mêmes qu'on a tous. D'accord. Par essence. Maintenant, on le fait pas en mode 2019 pour obtenir un résultat et pour obtenir un enjeu. Ça, enfin, alors là, je parle pour moi, mais je n'y crois absolument pas. C'est comme de méditer aujourd'hui. Tout le monde dit ah, on médite pour aller mieux. Oui, enfin, méditer, c'est très, très exigeant. Alors, oui, comme faire du yoga, on a un bien-être, évidemment, de le faire, mais c'est une vraie discipline. Et on traverse quand même plein d'endroits pas faciles quand on médite ou quand on pratique ce genre de discipline, y compris pour le yoga. Donc, viser ça pour un enjeu de bien-être, c'est, ou de mieux-être, ou de réussite de quelque chose, c'est louper... Le fait que c'est le chemin qui, lui, est porteur de sens et que c'est le chemin qu'on prend qui va nous modifier en profondeur.
Oui, j'ai compris.
Donc, le sujet, c'est pas de réussir quelque chose.
Oui, c'est en fait justement le chemin, c'est le fait de faire cette...
C'est une démarche, donc c'est une rencontre. Donc c'est une rencontre. Et rencontrer son âme, rencontrer sa dimension. Hein, et l'âme, voilà, moi je vous renvoie au livre de François Cheng, l'académicien de l'âme.
Ah, je les ai tous.
Bon, voilà. Bon, voilà. Quand on lit François Cheng, on comprend ce que c'est que d'avoir une âme. Et là, on touche à quelque chose de l'ordre de l'infiniment, comment dire, subtil, voilà, de quelque d'une subtilité. Et c'est une autre dimension. Alors, bien sûr qu'elle est là, qu'elle est belle, qu'elle brille, qu'on a besoin de la rencontrer dans une vie, mais on ne le fait pas pour réussir quelque chose ou pour en opérer un bien-être. On le fait pour une croissance de soi, c'est-à-dire un chemin de croissance intérieure. Donc, ce n'est pas pour résoudre. C'est pour ça que quand je vous entends dire « bah oui, mais si je le fais, est-ce que moi je suis sûre de résoudre ceci ou cela ?» Là, je vous dis non, partez pas là-dessus, parce que vous risquez d'être déçu en
parce
plus.
Parce qu'en fait, c'est elle qui le présente comme ça, c'est-à-dire qu'elle pense que en fait, si ma vie sentimentale a été aussi chaotique, c'est en raison de cet homme-là, donc mon premier amour... qui s'est suicidé et donc je suis restée bloquée. Ça fait près de 30 ans que je suis restée bloquée, quoi.
D'accord.
Comme si j'étais mariée à un fantôme, en fait.
En tout cas, qui prend trop d'importance pour pouvoir vous attacher et recréer quelque chose pour vous. Il est toujours là, il est toujours présent, très présent.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc... c'est pour ça qu'elle me l'a présenté de cette façon, comme si c'était c'était un but. Et donc, du coup, il y a le côté réussite, vous voyez,
j'entends,
où vous disiez non, c'est pas du tout, faut pas le prendre comme ça, c'est une démarche de croissance d'âme, etc. Elle, elle le prend dans le sens, là, il y a un problème, et là, il va falloir dénouer le problème, et c'est en allant faire de l'hypnose spirituelle que ça va quelque part comme si elle allait me libérer de ce fantôme.
Oui, donc permet une croissance à ce moment-là, on peut le dire comme ça à ce moment-là.
Ah, d'accord.
Oui, okay. Bah oui, on pourrait dire, c'est pas, oui, il y aurait un résultat, mais ce serait un effet, ce serait un effet. Mais l'idée, c'est de reprendre votre chemin de croissance. Donc de libérer quelque chose de l'ordre de votre âme qui est peut-être encore coincé quelque part. Mais vous pourriez me dire, ah ben, je fais du transgénérationnel et puis je découvre chez ma mère ou chez une sœur ou chez une grand-mère ou une tante telle histoire avec un homme qui s'est suicidé jeune. Et après, ah oui, parce qu'après, on peut ouvrir plein de boîtes aussi différentes. Ouais. Donc, c'est vraiment important, vous, Natacha, que ça ne parle qu'à vous. Parce que je dis, d'accord, moi, je pourrais vous dire ça et vous dire, ah oui, ah ben alors, ça doit être ça, etc. Non, non, il faut que ça vous parle. Il faut que vous, vous sentiez au plus profond de vous quelque chose de l'ordre d'une vérité. Mais il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Moi, personne ne peut dire, ah oui, c'est ça. Vous, vous dites, ah oui, là, je sens qu'il y a quelque chose, je ne peux pas passer à côté d'une vérité parce que je me connecte à moi et je l'entends.
Ouais.
C'est un peu là, ce que nous fait que découvrir un peu le livre de Sabrina. Oui, oui.
Oui, non, mais c'est très marrant ce que vous avez parlé justement de transgénérationnel, et puis vous découvrez que finalement quelqu'un et j'avais pas du tout pensé à ça, et en fait même si c'est pas un suicide, oui, il y a eu ça fait écho en moi.
Ah oui, ça a fait tilt là quand je vous ai dit ça.
Oui, ça a fait tilt alors que j'avais pas du tout fait le rapprochement.
Ben, allez regarder peut-être de ce côté-là alors, Natacha. Oui, c'est vraiment ce qui est juste, c'est ce qui vous parle. Voilà, c'est ce petit tilt, c'est dire ah oui,
d'accord,
ah oui, oui, ouais, là ça a du sens pour moi. Et vous savez pas pourquoi ça en a, mais du coup ça veut dire que là il y a un truc vraiment intéressant.
Bah écoutez,
et comme c'est particulier. Ouais. Et osez poser plein de questions, hein, promis Natacha. Hein.
Ah oui, là ça y est, ça m'a...
Génial.
Je me sens mieux, là, je respire
mieux. Oui, j'entends, oui, il y a plus de... quelque chose de plus libre. Bon, bah, c'est
extra. Oui. Donc,
c'est les ondes d'Europe 1, c'est magique.
Oui, c'est ça. Ouais. Bah, merci beaucoup Sophie pour vos conseils.
Merci Natacha de votre appel. Merci à vous. Bonne nuit,
au revoir.
Bonsoir Sylvie.
Oui, bonsoir. Bonsoir Sophie. Merci. Je suis ravie de vous entendre.
Oui,
merci de m'accueillir.
Aussi, merci, merci.
Voilà, donc ça c'est pas très joyeux. Hein. J'aurais préféré vous appeler dans d'autres circonstances. J'écoute votre émission comme tous les auditeurs, hein, avec attention. Vos précieux conseils m'éclairent souvent. Voilà, par contre, voilà, moi j'ai une grosse décision à prendre. J'ai une de mes sœurs qui est touchée par la SLA.
Oui.
Et donc,
C'est la maladie de Charcot, c'est ça?
La maladie de Charcot.
Oui, c'est ça. Oui.
Voilà. Oui. Et donc, ça s'est fait en quelques mois. La maladie a été diagnostiquée très tardivement. Donc en fait, elle a les deux formes, à la fois la forme bulbaire, donc ça agit au niveau de la voix. Ça a commencé comme ça.
Ouais.
Et bon, des problèmes de déglutition et également la motricité qui est touchée. Voilà, donc c'est très rapide.
Ouais.
Et comme en plus elle refuse tous les soins, donc elle ne veut ni toilette, ni aide, ni. Elle veut rien. Voilà, elle n'a pas voulu une gastroctomie pour l'alimentation. Donc là, elle est très très faible. Elle s'affaiblit de jour en jour. Bon, ça date du mois de mai, hein. Elle a tenu jusqu'à maintenant, elle pensait partir avant décembre.
Oui.
Et donc, comme elle habite la Suisse,
oui,
elle a programmé un suicide assisté à la fin du mois. Voilà. Donc, la date est fixée. Et donc, disons que moi, j'ai pas mal de pression. Enfin, je me mets la pression et j'ai la pression un peu familiale.
Oui.
Par rapport à ça,
ouais,
à la fois d'accompagner, parce que bon, j'ai ce côté, bienveillant, et puis c'est ma sœur, et à la fois beaucoup de peur. Et puis, je précise aussi que je suis bipolaire. Donc, bon, je suis quand même quelqu'un qui est, suivi par une psychiatre. J'ai fait beaucoup de travail sur moi. J'ai pratiqué très longtemps le yoga. J'ai fait aussi de la méditation. Enfin, j'ai fait quand même un gros travail.
Oui, un gros chemin de croissance. Ouais.
Voilà. Même si en ce moment, j'avoue que je ne suis pas du tout. J'ai tout arrêté. Bon, j'ai développé une périarthrite au niveau des épaules. Donc, je suis en soins avec un kiné en ce moment.
Oui, c'est trop lourd tout ça pour vous. Ben oui, je comprends.
J'allais reprendre un travail et bon, ben voilà, c'est ça qui m'est tombé dessus. Le jour des résultats de la radio, je devais me présenter pour le boulot. Donc, ben, j'ai tout laissé tomber. Je me suis dit, décidément, je ne vais pas arriver à avancer. Il y a toujours un truc qui se met en travers. Voilà, et donc, entre-temps, il y a ça aussi, et ça, c'est un gros morceau, et donc là, ben, j'ai une de mes sœurs qui me dit, oui, il faut que tu viennes, il faut que, et moi, je c'est un truc qui me stresse beaucoup, et j'ai une autre sœur qui me dit, surtout, n'y va pas. Voilà, parce que
d'aller là-bas pour l'accompagner, c'est ça la question,
vous devez aller là-bas,
d'accord.
Oui,
c'est pas intervenir sur sa décision, c'est pas ça votre question, parce que
non, mais moi de toute façon je respecte tout à fait.
D'accord, c'est de savoir vous ce que vous devez. Et vous, qu'est-ce que vous sentez vous par rapport et qu'est-ce que ça vous fait là, la décision de votre sœur, comment vous le vivez?
Moi je le vis bien. Parce que je comprends, bon, il paraît qu'elle est méconnaissable, enfin, physiquement. Et puis,
ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue ?
En fait, je l'ai vue parce qu'elle a un fils qui a exactement mon âge, en fait, qui a 52 ans, et donc qui est comme mon frère, en plus, il est bipolaire comme moi, mais alors lui, il est très, très, très enfoncé dans la mélancolie, dans la tristesse. Et bon, on est comme des, pas des jumeaux, mais un peu, quoi. Et puis bon, on a ce côté de lien aussi par la maladie. Mais bon, moi, j'ai d'autres côtés, où je suis, dans l'enthousiasme, dans la vie. Bon, ça, même si ça m'a amené en phase maniaque, j'ai quand même ce côté d'énergie, ce côté quand même qui est positif aussi quelque part. Voilà, même si ça peut aller dans des excès. Donc du coup, je suis complètement perdue par rapport à cette décision à prendre rapidement.
Qui serait pour aller là-bas, pour l'assister,
être là, carrément, pour être là pendant le suicide, quoi. Voilà. Voilà, donc il y aura la famille. Bon, en plus, c'est assez violent. Le mari a été écarté parce que bon, mon beau-frère est très, très agressif et il a fait des AVC, il est devenu dément et ils ont peur qu'au moment du geste, il soit incontrôlable. Donc, il sera carrément interné demain après-midi.
Ah, il sera interné demain. Voilà. Parce que donc ce genre de situation, d'acte, génère beaucoup de colère, en fait. C'est une grande violence psychique pour vous tous. Et c'est souvent là-dessus, que la famille est accompagnée. Oui, allez-y, je vous en prie.
Voilà, je dois dire que moi, j'ai conscience de tout ce qui va se passer au niveau des émotions, parce que je suis hyper émotive, je suis vraiment hyper sensible. Et je sais vraiment tout ce que ça... Tout ce qui va remonter, en fait, puisque bon, j'ai déjà perdu mes deux parents avant, à 10 ans d'intervalle, d'ailleurs en 99 et en 2009. On est en 2019. Donc, les 9, c'est pas des bonnes années, on va dire. Mais je sais tout ça. Je sais. On fait toujours des scénarios, mais ça se passe jamais non plus comme on s'imagine, d'ailleurs. Mais je sais qu'il y a, comme vous dites, ça va générer beaucoup de colère. Après, je m'en remets à vous parce que honnêtement,
Et de votre psy, on dit quoi? Vous lui en avez parlé? La personne qui vous suit?
Alors, Ma psy, alors ma psy, je l'ai eue au téléphone lundi, oui. Parce que bon, elle est au courant de la situation. Oui. Et puis, elle m'a dit, essayez de vous imaginer et essayez de connaître, de ressentir vos limites. Où sont vos limites?
Mais moi, il me semble que ça y est, vous l'avez fait, ça. Non, je me trompe?
Ouais.
C'est ce que vous venez de me dire? Non, ouais. Non, je ne sais pas.
Oui, peut-être.
Ce que je ressens tout de suite, là. C'est pour ça que je réagis tout de suite en disant, mais ça, vous...
Oui, parce qu'en fait, vous venez si de vous me voulez, dire, ça. Aussi, en deux, trois jours, je passe d'un moment où je me dis, non, ça ne va pas être possible. Mm-hmm. Il faut être raisonnable, il faut te préserver, il faut être dans la bienveillance pour toi. Mm-hmm. Ta vie est importante, parce que après, si tu n'arrives plus à gérer, bah, t'es seule. Moi, je vis seule. Hein, je vis seule avec mon chat. Et voilà, bon, j'ai deux merveilleux enfants, une fille et un garçon, qui sont fabuleux. Mais bon, ils sont partis. Hein. Mon fils est parti en septembre faire des études. Et ma fille, bon, est partie un peu avant. Donc, c'est le syndrome du nid vide. Mmh. Alors ça, je l'ai plus que vécu. Et je le vis encore, d'ailleurs. Mais plus ça qui arrive aussi. Donc, voilà.
Ce qui me semble aussi, Sylvie, ce qui m'apparaît, c'est que bien que, voilà, bien sûr que vous êtes proche d'elle, en tout cas, enfin, il y a un lien fort, mais ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. Il n'y a pas un lien très régulier avec elle, et un lien de vie où il y a des souvenirs qui sont tissés. Donc, être là, à ce moment-là, pour vous, c'est très violent parce que vous n'êtes pas dans un quotidien d'affect avec elle. Il n'y a pas quelque chose qui se vit, je ne sais pas, la voir, je vous dis n'importe quoi, tous les week-ends ou de la voir deux fois par semaine. Enfin, voilà. Et comme ce lien n'est pas là, vous allez débarquer là-bas. Alors, vous ne l'avez pas vu depuis longtemps pour le dernier moment. C'est d'une violence inouïe. C'est-à-dire que, que vous soyez là pour l'enterrement, que vous soyez là pour les obsèques, comme si vous êtes prévenu, vous êtes demain prévenu d'un décès d'un proche. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On y va, on se déplace, on entoure ceux qui restent, on est là pour les obsèques. Ouais. Et là, on va dire, on est dans des conditions plus naturelles que ce qu'on connaît mieux. Là, dans le cas précis, ce serait votre sœur que vous accompagneriez quasi quotidiennement, mais très régulièrement, depuis sa maladie, avec un lien très fort. Ça vous semblerait, je pense, complètement normal d'être là à ce moment-là. Enfin, la question ne se poserait pas de la même manière. La question, elle se pose comme ça, parce que le lien, même s'il est là, il n'y a pas de quelque chose de vécu qui peut s'inscrire dans votre vécu à vous et qui fait partie de votre vie. Alors, vous allez vous retrouver là-bas dans quelque chose d'une grande violence. Et vous l'avez d'ailleurs dit, d'une certaine manière, moi je l'exprime un peu autrement, mais vous l'avez dit, que vous avez dit, mais moi, je suis seule et après je vais me retrouver chez moi avec mon chat. Donc, ça y est, vous êtes projetée. C'est-à-dire que ce que vous comprenez, c'est... Mais je vais aller là-bas, je vais vivre cet événement qui est quand même d'une grande violence et tragique, tout à fait. C'est vraiment le tragique de la vie. Et du coup, vous allez être très seule, vous très seule. C'est pas comme si y avait ce lien.
C'est sûr que je ne veux plus retourner à l'hôpital, en fait. Moi, j'étais tellement hospitalisée deux fois, j'essaye de me préserver, quoi. Hein. Donc, c'est vrai que j'ai une amie, là, qui vient me voir régulièrement, qui me fait une séance de Reiki tous les mois, avec qui je suis en lien, et elle m'a dit, mais attends, mais tu n'es pas du tout en état. Elle m'a dit, actuellement, tu es en état de survie. Alors, c'est vrai que ça m'a fait un choc quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit, mais est-ce qu'ils sont lucides, quand même? Alors bon, ils m'ont dit, t'es obligé en rien, on t'en voudra pas. Mais bon, c'est une de mes sœurs qui m'a dit, allez, viens avec moi, on y va.
Ah oui, que l'autre sœur, l'autre sœur demande à ne pas être seule. C'est pas ça, elle parle pour elle. Que l'autre sœur, elle dit, quand même, t'es ma sœur, tu pourrais être là avec moi, parce qu'elle non plus, elle a pas envie de le vivre. Mais elle se sont obligées d'y aller.
Et puis elle me dit, il y a Thierry qui est là,
elle a son mari,
il y a mon neveu, enfin mon neveu, hein, donc qui est là, qui a besoin de toi, il a besoin de toi.
Non, mais c'est elle qui a besoin de vous. Oui, attention, attention, Sylvie. Là, c'est elle qui a, elle est en train de vous dire qu'elle a besoin de vous. Mais là, c'est une situation tellement intime et tellement personnelle. Ouais. Là, il y a une auditrice qui a appelé pour dire que sa mère a eu la maladie de Charcot et que les symptômes de votre sœur sont ceux qu'a eu sa maman 2 mois avant de mourir. Alors, d'accord. Elle veut dire tout va très vite. Bon, mais il se trouve que votre sœur, si je comprends bien, de toute façon, elle a déjà pris sa décision. Donc, elle ne va pas la remettre en cause.
Oui,
ouais, d'accord.
Non, non. Donc, non. Non, non. Puis, elle ne veut pas aller à l'hôpital. Donc, à partir de là...
Peut-être vous avez entendu parler, Sylvie, d'une femme qui s'appelait Anne Baer. Anne et Baer, B-E-R-T, bien sûr. Oui. Hein, qui avait une SLA, et donc je lis pour les éditeurs, qui a fait paraître en octobre 2017, à 59 ans, un livre qui s'appelle Le tout dernier été, et qui est écrit juste avant la décision qu'elle a fait. Prise et là, elle s'est fait euthanasier en Belgique. Hein. Et c'est un livre très poignant. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, ça m'avait beaucoup marqué. Et je pense que la lecture, par exemple, là, du livre d'Anne Baer pourrait beaucoup vous aider. Parce que, en fait, que j'étais en train d'imaginer aussi, c'était de communiquer avec elle à un autre niveau. Peut-être ne pas être présente. Mais d'être dans l'instant, vous voyez, par exemple, je pensais à la lecture du livre d'Anne Baer le jour même ou la veille ou dans ces 2 jours-là. Il est très rapide à lire pour être dans cette communion avec elle et poser un acte symbolique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce jour-là, évidemment, vous ne pourrez pas avoir une journée comme une autre. Donc, dire à votre sœur et à la famille, écoutez... Moi, je ne peux pas venir, mais je vais être en intense pensée avec vous. Et voilà ce que je vais faire. Alors, je ne sais pas ce qui va vous parler, aller dans une église, aller au bord d'un fleuve, aller dans la nature, enfin, j'en sais rien. Vous connecter
ça
à la famille.
Ça peut être la musique. Parce que
la,
moi,
musique, très bien.
Avec la musique,
formidable. La musique, mettez chez vous avec de la musique ou un casque. Bon.
Je suis musicienne, donc c'est
vrai. Très bien. Ou jouer pour elle. Voilà. Ou jouer. Formidable. Sylvie, vous jouez pour elle. Parce que vous allez être dans une action. Qui va être une action de communion. Vous allez la prévenir, elle, les prévenir tous, de ce que vous allez faire en disant voilà mon action. Je ne serai pas avec vous physiquement, mais je serai avec vous par la pensée et dans ma façon d'agir à ce moment-là. Parce que ça, c'est quelque
super.
Chose de l'action et de la construction pour vous.
Ouais.
Sinon, vous allez devoir vivre l'événement de façon passive et je n'ai pas l'impression que ce soit très protecteur pour vous.
C'est vrai que j'appréhendais tellement de la revoir dégradée comme ça, parce que je sais à peu près dans quel état elle est, hein, et je me suis dit, mais je vais plus arriver à me détacher de ça, et je ne vais plus arriver à dormir, et puis moi je sais que si je ne dors plus, c'est catastrophique, et comme je ne veux pas de somnifère, je ne veux pas rentrer là-dedans, après ça m'amène dans des états catastrophiques, quoi.
J'entends.
Ouais.
Oui, j'entends.
Après, c'est vrai que pour moi, même l'enterrement, c'est difficile à dire, mais je me demande même si je vais y aller. J'en suis là.
Ouais. C'est autre chose. C'est autre chose, Sylvie. Pourquoi c'est autre chose ? Parce que l'enterrement, c'est un moment donné où, en fait, on y va... pour ceux qui sont là. On y va pour être dans la présence, pour s'entourer les uns les autres, hein, pour se prendre dans les bras, pour pleurer au besoin, pour dire un mot sur la personne. Voilà. On est dans le on est déjà rentré dans le souvenir et on est là pour se soutenir. C'est du soutien, un enterrement. Donc, c'est pas tout... Alors, bien sûr, on accompagne aussi la personne qui s'en va. Donc, on accompagne son âme aussi. Et ça, c'est un beau moment. Parce que, après, tout dépend de ses croyances et de l'aspect spirituel. Mais on est là dans le dernier voyage. Oui, elle, non, elle n'est pas du tout là-dedans.
Non.
Ni la famille.
Non.
Ouais.
Pas trop. Non. Ouais. Non.
Mais et vous, Sylvie, vous, qu'est-ce qui vous...
Moi, je suis, je suis croyante universelle.
Ah, c'est beau. C'est beau, ça. J'adore. Ouais.
Je prends l'âme.
C'est magnifique. C'est ça. Voilà. C'est très bien dit. J'aime beaucoup. Croyante universelle.
Le respect. Je vous l'amour.
C'est magnifique. Universel. Ouais. Voilà. Alors, vous êtes. Vous serez partout au bon endroit. Moi, j'ai envie de vous répondre, vous serez partout au bon endroit parce que l'endroit sera juste. Branchez-vous là-dessus. Hein, Là, c'est magnifique ce que vous venez de dire. Et donc, quoi qu'il arrive, vous êtes au bon endroit. Alors, peut-être pas le bon endroit pour cette sœur-là, enfin, celle qui vous demande de venir, parce que forcément, vous subissez des pressions. Ne vous réfugiez pas derrière la maladie. Ne faites pas ça parce que vous, vous fragilisez. Vous, quand vous faites ça, vous dites « Ah, mais tu comprends, moi, je suis bipolaire, j'ai ça, mais je ne peux pas venir, c'est trop dur pour moi. » Non, parce que c'est pas juste pour vous, je trouve. C'est pas à cause de ça que vous n'y allez pas. Vous voyez, c'est pas, ça va au-delà. Non, faut que vous puissiez dire voilà moi ce qui compte pour moi dans ce moment-là. C'est un moment très, très important pour moi aussi, pour chacun de nous. Et vous pouvez encourager tous les autres à dire bah, chacun, puisque elle décide, elle prend la décision de elle a pris cette décision en toute liberté, que vous la respectez. Alors, chacun d'entre vous est libre aussi de se positionner dans ce moment. Vous avez tous cette liberté. Ensuite, on vous a perdu. Ah, mais c'est trop triste. Ça a coupé au mauvais moment. Je ne sais pas si vous nous entendez toujours, Sylvie. Non, malheureusement. Alors, on va essayer vite. On se dépêche parce qu'il nous restait malheureusement quelques instants. Alors, il y a Jade qui dit il existe aussi un documentaire sur Anne Behr, disponible sur Internet et diffusé sur la chaîne parlementaire LCP. Courage à Sylvie, dit Jade. Et puis, tous ceux qui nous écoutent et qui suivent notre échange, moi, je vous recommande, que vous soyez ou pas concernés par le sujet, le livre absolument magnifique d'Anne Behr, BERT, qui s'appelle Le tout dernier été, qui est paru en octobre 2017 et qui raconte son dernier chemin et pourquoi elle a pris cette décision, comme elle le disait, de devancer la mort et comment elle s'en explique. Ah, bah, c'est merveilleux, Sylvie, on me dit que vous êtes là. Ah, je suis contente. Voilà, ça m'ennuyait qu'on se quitte comme ça. Bon, même si c'est la fin de l'émission. C'est dommage. Est-ce que vous êtes bien avec ça, avec ce qu'on vient de se dire?
Oui, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apaisée, beaucoup aidée, inspirée. C'est vraiment...
Bon, je suis contente. C'est juste que je ne sais pas, parce que ça coupe à ce moment-là, ce que je suis en train de vous dire, c'est d'abord, c'est un moment important pour chacun, dites ça à votre sœur. Et je disais, ne vous réfugiez pas dans le fait que vous soyez ceci ou cela. Prêchez dans la famille que c'est un moment personnel et intime, qu'elle a pris une décision, que chacun peut se positionner par rapport à la décision et que vous allez être là par le cœur, par l'esprit, par votre âme, par la musique, parce que vous savez le mieux faire et vous allez jouer pour elle, et vous allez vous connecter à elle et au groupe. Et que vous verrez peut-être, là je vous laisse après décider pour les obsèques, mais ce sera un autre moment. Donc peut-être que vous pouvez faire la différence entre ces deux moments-là.
D'accord.
C'est
vrai que ça implique beaucoup de route, beaucoup de financièrement. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de moyens.
On va
réfléchir à tout.
Bon courage à vous dans ce moment très très particulier. Merci.
Beaucoup aidé. Oui.
Merci Sylvie.
Merci beaucoup.
Merci.
Sophie.
Belle nuit à vous.
Je vous embrasse fort.
Moi aussi. Au revoir. Au revoir Sylvie.
Au revoir. Merci.
Et oui, c'était une émission un peu plus courte, mais qu'elle fut bonne quand même, parce que c'est toujours un délicieux moment passé avec vous. Merci à Natacha, merci à Elsa et merci à Sylvie. C'est promis, demain, on se retrouve à 22h30. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, il n'y a pas foot demain. Et on sera absolument tous ensemble dès 22h30. Et je voudrais que vous vous endormiez ce soir avec Voltaire, parce que ça fait écho au témoignage de ce soir. Si l'on n'est pas sensible, on n'est jamais sublime. Je vous souhaite une très belle nuit. À demain, 22h30.